France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Deuxième épisode de notre série sur le stoïcisme. Hier, nous avons parlé des stoïciens grecs anciens. Voici aujourd'hui une émission sur Sénèque, qui a vécu à Rome au 1er siècle de notre ère. Sénèque serait-il le plus épicurien des stoïciens ? Né en l'an 4 avant notre ère, mort en l'an 65 de notre ère, Sénèque a connu dans sa vie quatre empereurs romains, Tibère, Caligula, Claude et Néron. Jeune avocat, il conseillait Caligula, puis il a fini par tomber en disgrâce et a dû passer 8 ans en exil en Corse. Ensuite, Agrippa, la mère de Néron, le fait rappeler pour qu'il conseille son fils. Quoi ? Un stoïcien supposé sobre dans son mode de vie, modéré en tout, vertueux jusqu'à dominer parfaitement ses passions, est devenu le conseiller de Néron, l'un des empereurs romains les plus cruels. Oui, et ce n'est pas tout, Sénèque était riche aussi, très riche. Mais il paraît qu'après l'incendie de Rome en 64, il a offert à Néron toute sa fortune pour la reconstruction de la ville. Enfin, nous allons vérifier tous ces points biographiques avec nos invités de ce matin. Mais si la vie de Sénèque est intéressante, notre objet premier sera son œuvre, car elle est stoïcienne, cette œuvre, quoique souvent tentée par un autre courant philosophique, l'épicurisme, qui est né lui aussi en Grèce ancienne, fondé par Épicure à peu près au moment où Zénon fondait le stoïcisme. Et il y a des correspondances entre épicurisme et stoïcisme que Sénèque connaît et explore, des thèmes communs. Ainsi, celui de l'ataraxie, état de sagesse qui a neutralisé les désirs insatiable, ou le thème de l'amitié crucial pour les deux philosophies. Pour autant, dans le traitement de ces thèmes communs, tout est différent. Et finalement, Sénèque, naviguant, cherchant, nous aide à comprendre avec précision ce qu'est la morale stoïcienne. Bonjour Christelle Veillard.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris-Nanterre, spécialisée en philosophie ancienne. Épicurisme et stoïcisme sont vos objets de recherche. Et bonjour Carlos Lévy. Oui. Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, latiniste, mais aussi très bon connaisseur de la littérature grecque, historien de la philosophie, mais aussi d'autres genres, comme la rhétorique. Vous vous intéressez souvent aux rencontres entre courants différents, ainsi dans vos travaux sur Philon d'Alexandrie ou dans vos analyses sur le devenir des courants sceptiques dans le monde moderne. Sénèque, figure complexe dont nous parlons aujourd'hui et dans laquelle se croisent des influences différentes, est donc exactement le genre de penseur que vous aimez éclairer et je m'en réjouis d'avance. Alors je vous propose tous les deux de commencer par un point biographique que j'ai un peu évoqué. Nous sommes en 64, un an avant la mort de Sénèque. Celui-ci conseille Néron. Incendie de Rome, très vite, Néron va se retrouver accusé de l'avoir lui-même provoqué.
Il crie quelque chose, que sont-ils en train de crier ?
Ils t'ont gratifié d'un nouveau titre, divinité, incendiaire.
J'ai fait demander des renforts, j'espère qu'ils arriveront à temps. À ta place, je parlerai au peuple César, pourquoi ne pas lui faire des promesses ?
Je ne recherche pas les faveurs, c'est moi qui les confère. Va leur parler en mon nom !
J'attendrai que les renforts arrivent, je ferai parler le fer. À présent, ils me lapideraient.
Est-il plus noble cause pour laquelle mourir ?
Ce fut ton rêve d'architecte. Pour le leur dire, Faon, c'était pour leur bien.
Nous ne pouvons pas leur connaître, divinité.
Tu as raison, il ne faudra jamais leur connaître. Comment ces misérables partageraient-ils ma vision ? Sénèque, qu'est-ce que tu me conseilles ?
Le peuple est une bête sauvage. Et avec un animal, on ne peut pas raisonner.
Je ne suis plus entouré que par des eunuques.
Et vous venez d'entendre un extrait du film Quo Vadis, Peplum de Mervyn Leroy, sorti en 1951. Christelle Veillard, c'est un point d'histoire. Comment ça se passe exactement entre Sénèque et Néron, au moment où Néron est accusé, d'ailleurs vous me direz si c'est confirmé aujourd'hui par l'historiographie, au moment où Néron est accusé d'avoir lui-même incendié Rome ?
Alors, comment ça se passe ? Sénèque et Néron ont une très longue histoire, comme vous l'avez dit, puisque Sénèque est appelé pour devenir le précepteur de Néron. Donc, ils se rencontrent alors que Néron est très jeune. Et Sénèque a bien l'ambition, précisément, de former cette jeune âme pour la conduire vers des principes droits de gouvernement et de comportement. Et manifestement, donc ce que l'on constate au fil de la vie de Néron, c'est que ces efforts de Sénèque ne sont pas tout à fait couronnés de succès et qu'il n'arrive pas à contrôler les excès à la fois individuels et collectifs, disons, de Néron. L'exemple de l'incendie de Rome est une espèce de manifestation extraordinaire de la démesure de Néron qui, donc, dit-on, aurait déclamé des vers devant l'incendie en se réjouissant de la beauté du spectacle. Ce qui montre que, enfin, c'est une histoire pour expliquer que la démesure de Néron n'a pas réussi à être réduite par les enseignements du stoïcisme. Donc, c'est une espèce de manifestation de l'échec de l'enseignement de Sénèque. Ce qui conduit Sénèque à essayer de se retirer de l'influence de Néron et de cet encombrant disciple qu'il n'arrive plus à contrôler.
Est-ce que vous auriez jusqu'à dire, Carlos Lévy, que Sénèque, après, en particulier dans ses très fameuses lettres à Lucilius, qui sont écrites dans ces dernières années, les derniers mois de sa vie, regrette franchement même de s'être lancé dans ce travail de conseil auprès de Néron. Tout ça était une impasse.
Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un constat plutôt que d'un regret. Mmh. Lorsque j'étais professeur, il y a déjà un certain temps, je disais toujours à mes élèves, à mes étudiants, quand on dit que Sénèque est stoïcien, le terme compliqué, difficile, c'est le verbe être.
Ah ben je vous écoute parce que c'est une excellente entrée en matière.
Ce n'est pas l'adjectif stoïcien. Pour un Romain, et cela a été théorisé par Cicéron dans le livre 3 du Deophikis, non, le livre 1, pardon, du Deophikis, un individu, c'est un ensemble de personae. Mmh. L'unité, c'est un point de fuite, c'est un point de perspective, et non pas un point de départ. Donc, Sénèque, comme tout intellectuel romain, assume d'avoir en lui plusieurs personae.
Depuis le début, ça.
Depuis le début. Depuis le début. Et donc, de jouer des rôles différents, d'assumer des personae différentes.
Donc d'essayer, diriez-vous, d'épouser le stoïcisme tout en connaissant plein d'autres philosophies, voulez-vous dire qu'il est dans la tentative sans arrêt et non pas dans la certitude de la conviction ?
Alors, je crois qu'il y a une différence majeure entre l'épicurisme et le stoïcisme. Dans l'épicurisme, la perfection humaine est en amont. La perfection humaine, c'est Épicure. Épicure est un héros de la pensée et les Romains adorent les héros.
Donc Épicure, je me permets pour les personnes qui nous écoutent de donner juste quelques précisions historiques. Il est né en 342 avant notre ère, mort en 270, tout ça avant notre ère. Il était relativement contemporain de Zénon, qui a fondé le stoïcisme. Ensuite, à Rome, Lucrèce incarne l'épicurisme. Alors lui, il est né en 48 et mort, au moins 48, je crois, c'est ça ? En tout cas, premier siècle, juste après Jésus-Christ, comme on dit parfois. Est-ce que, d'emblée, on va tout de suite poser ce problème, déjà en Grèce, épicurisme et stoïcisme dialoguait, était éventuellement en conflit. Est-ce que ça s'est joué déjà à ce moment-là ?
Oui. Tout ce que vous avez dit est exact, mais à Rome, cela a pris des aspects différents. En effet, pour toutes sortes de raisons, à Rome, l'individu est un peu ce que Mirabeau disait de la France, je cite de mémoire, un agrégat inconstitué de peuples désunis. À Rome, l'individu, c'est un agrégat inconstitué de personae désunis. Mmh. On est à la recherche du héros, et les penseurs stoïciens, ce sont plutôt d'honorables intellectuels, c'est-à-dire à Rome, ça n'a pas du tout le prestige qu'il pouvait avoir dans le monde grec.
Ah.
Lucrèce fait d'Épicure un héros, un saint, un demi-dieu.
D'accord.
Et jamais un stoïcien n'est présenté de cette manière, ni chez Sénèque, ni chez d'autres.
Est-ce qu'on peut creuser avec vous un peu, Christelle Veillard, ce problème ? On ne va pas résumer... on va essayer de résumer l'épicurisme, mais évidemment que ça va trahir toute une complexité. L'épicurien n'a rien à voir avec ses caricatures souvent modernes. C'est un être de la modération, mais c'est un être qui pense que le plaisir est une très grande valeur. Simplement, est-ce qu'on peut dire que c'est une éthique du plaisir cherchant à le cultiver seulement en ce qu'il réduit nos manques et nos besoins, et surtout sans attiser le caractère insatiable du désir? Est-ce que ça vous va comme entrée en matière?
Ça me va tout à fait. Alors pour revenir sur votre... le rapport en fait que les épicuriens et les stoïciens ont aux figures tutélaires, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup intéresser Sénèque, en réalité, dans son rapport à Épicure. Donc effectivement, Épicure est présenté par Lucrèce comme le sauveur de l'humanité, parce qu'il va venir nous révéler le principe droit de notre existence, qui est, comme vous l'avez dit, de propulser le plaisir comme principe et fin de toute notre vie. Donc en se réglant sur le plaisir, nous allons pouvoir atteindre la vie bienheureuse. Et c'est le héros ou le dieu Épicure qui nous aurait amené cette parole libératrice. C'est la raison pour laquelle Sénèque va se saisir aussi du personnage d'Épicure, notamment dans ses lettres à Lucilius. Il va beaucoup utiliser cette figure parce que Épicure a dit des choses très frappantes qui correspondent à une vérité qui est commune, dit Sénèque, au stoïcisme et à l'épicurisme. Et de ce point de vue, l'objectif commun, c'est l'ataraxie, donc la tranquillité de l'âme, qu'on atteint,
oui.
Par contre, par des voies différentes, même si elles peuvent ressembler, comme vous l'avez dit, donc dans l'épicurisme, le plaisir est principe et fin, mais bien sûr, tout plaisir n'est pas à choisir et il faut procéder à une sorte d'arbitrage entre les plaisirs et les peines, et donc faire un calcul, comme le dit Épicure, un calcul sobre des plaisirs et des peines.
J'en profite juste pour rectifier une erreur que j'ai faite. Lucrèce est la figure romaine de l'épicurisme, ses premiers siècles avant notre ère. Il est né en 98 avant Jésus-Christ, Lucrèce donc est mort en 55. Autrement dit, c'est une figure du temps de la République romaine. Sénèque a-t-il lu Lucrèce autant qu'il a lu Épicure ?
Alors en tout cas, ce que l'on voit dans ses lettres, c'est que ce qui l'intéresse, ce sont les maximes d'Épicure. Donc c'est une forme d'écriture très spécifique qui lui est utile. C'est la forme de la maxime, la phrase extrêmement resserrée. Et Lucrèce, de fait, procède de manière très différente, puisque lui, il choisit la forme poétique pour rendre les enseignements d'Épicure dans leur longueur, dans leur démonstration. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon sens, en tout cas dans les lettres de Sénèque, Sénèque va utiliser Épicure plutôt que Lucrèce, justement, parce que ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est la maxime frappante qui va venir ébranler l'âme pour nous apporter des vérités et pour nous conduire vers l'ataraxie ou la tranquillité ou le bonheur. Donc de ce point de vue, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui est différent finalement chez les stoïciens? Un stoïcien n'aurait jamais dit que le plaisir est principe et fin. Donc ce qui va guider notre existence, c'est le devoir, c'est la vertu, c'est, comme l'a dit Carlos Lévy, un certain nombre de charges ou de personnages que nous avons à incarner sur la scène du monde. Et dans cette histoire de devoir, le plaisir n'a que peu de place, que peu de rôle à jouer.
Alors, il y a une phrase, Carlos Lévy, de Sénèque, qui semble la réponse tout de même stoïcienne à sa propre tentation épicurienne. Je la lis. « Que la vertu soit la première, qu'elle porte l'étendard, nous jouirons néanmoins du plaisir, mais nous en serons les maîtres et les modérateurs. » En même temps, Épicure voulait aussi qu'on maîtrise plaisir et désir et de manière modérée. Mais quelle est la différence ?
La différence, permettez-moi de revenir sur ce point, c'est la romanité de Sénèque, la romanité du stoïcisme romain. Dans l'un de ses traités, le De Otio, qu'on a mal traduit par du loisir, mais comment traduire, Sénèque dit que la philosophie, c'est un peu le Sénat romain. C'est-à-dire qu'on doit donner des avis et qu'on ne peut pas coller à la pensée, à l'action d'un seul personnage.
Donc c'est assez extraordinaire ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a comme un refus du dogmatisme inhérent à la condition des Romains.
Inhérent à l'altérité romaine, oui. Puisque les Romains ne sont pas des Grecs, excusez-moi de dire cette
sottise. Surtout, ne vous excusez pas auprès de moi, il n'y a aucun problème.
Voilà.
Hein.
Voilà.
Mais je n'avais jamais entendu avec autant de fermeté cette différence. Vous suggérez même que les Grecs ont un tempérament plus dogmatique que les Romains.
Disons que la philosophie est originellement grecque et que le Romain a quand même le sentiment un peu gênant de s'aventurer dans un domaine qui n'est pas originellement le sien. Donc, on fait de la philosophie, on est philosophe, mais il y a quand même un élément irréductible d'altérité que Sénèque incarne.
Alors on va continuer, évidemment c'est notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ataraxie alors pour Sénèque ? Son stoïcisme est-il matiné d'un peu d'épicurisme ? Ce qui va dans votre sens tellement clairement, Carlos Lévy, c'est le fait que souvent, Sénèque veut rectifier des caricatures,
oui.
Notamment la caricature des épicuriens. Je vous propose à cet égard d'écouter un extrait de La vie heureuse, ce texte qui, si j'ai bien compris, a été écrit un peu tout au long de la vie de Sénèque. Et ici, il parle de son rapport aux préceptes d'Épicure.
Sans doute, mon opinion personnelle, je l'avouerai en dépit de mes congénères, est que les préceptes d'Épicure sont vénérables, droits et, pour peu qu'on y regarde de près, sévères. Car la volupté est réduite à des proportions minimes et exiguës. Et la règle que nous assignons à la vertu, lui l'assigne à la volupté. Il lui ordonne d'obéir à la nature. Mais c'est trop peu pour la sensualité, ce qui suffit à la nature. Qu'est-ce à dire ? Quiconque appelle bonheur, l'absolue oisiveté et les satisfactions alternées de l'estomac et de l'instinct sexuel cherche un bon garant d'une affaire mauvaise. Une fois qu'il s'est mis à identifier ses vices avec les préceptes, il cesse de s'y abandonner timidement et en cachette. Il se débauche même dès lors au grand jour. C'est pourquoi je ne répète pas avec la plupart de nos philosophes que la secte d'Épicure est une école de perdition. Mais je dis, elle a mauvaise réputation, elle est mal famée et a tort.
Victoire Mellet de notre équipe a préparé cette émission tout particulièrement et c'est elle qui lit cet extrait de Sénèque. Christelle Veillard, c'est vraiment un souci d'exactitude, une colère de Sénèque par rapport aux caricatures qu'on fait de l'épicurisme, qui fait que là, il dit mais non, c'est pas la volupté déchaînée. Pourquoi éprouve-t-il tellement le besoin de le dire ? Après tout, il y a une œuvre romaine qui est celle de Lucrèce, qui existe depuis plusieurs décennies, qui dit bien ce qu'est Épicure. Est-il nécessaire de rectifier à ce point, dans le monde romain, les mauvaises idées, les mauvaises réputations de l'épicurisme ?
Je crois qu'effectivement, les épicuriens ont une épouvantable réputation, ayant proclamé que le plaisir est principe et fin, et qu'ils proclament par corollaire, pourrait-on dire, que la tranquillité va consister à s'occuper d'abord de son équilibre intérieur, donc par la modération des plaisirs évidemment, mais de s'occuper d'abord de ce qui se passe dans notre intériorité, puis de ce qui se passe à l'intérieur du jardin, donc dans la communauté des amis du jardin.
Le jardin, c'est donc le nom de l'école d'Épicure.
Le nom de l'école d'Épicure. Et de se désengager de ce fait de la vie politique, des affaires. Épicure dit qu'il faut minimiser les sources de troubles, donc ne pas se marier, ne pas faire d'enfants, ne surtout pas faire de politique, enfin voilà. Donc il y a quand même tout un tas de principes qui sont très violemment critiqués par une société romaine très engagée et qui définit l'individu d'abord par ses engagements politiques et sociaux, son engagement dans la cité collective et pas seulement une espèce de concentration sur un équilibre intérieur. Donc il est nécessaire effectivement de... Donc la réputation des épicuriens vient surtout de leur désengagement de la politique à mon sens. Ce qui fait que il est assez facile pour contrer cette idée de désengagement politique de dire que tout est faux dans l'épicurisme et que donc le plaisir qui est proclamé est un plaisir de jouissance et d'accumulation des jouissances. Donc Sénèque fait preuve de beaucoup d'exactitude doctrinale dans le texte qui a été lu pour rappeler que la définition du plaisir, ça n'est pas une jouissance débridée, mais simplement l'absence de trouble, ce qui est tout à fait différent.
Alors l'ataraxie, donc, pour les épicuriens, tout de même, Carlos Lévy, c'est profondément différent de l'ataraxie pour les stoïciens. Il ne faudrait pas oublier que les épicuriens sont des matérialistes, ils pensent que le monde est fait d'atomes, y compris les dieux, d'ailleurs, ils sont très très lointains, donc ils ne nous embêtent pas beaucoup.
D'accord.
Et voilà, et donc il y a des logiques liées au mouvement des atomes, qui constituent des manques. Bon, le désir, le plaisir, c'est se faire remplir par des atomes correspondant exactement à ce qui nous manque. C'est pas du tout comme ça que réfléchit un stoïcien. Comment réfléchit-il ? Qu'est-ce que l'ataraxie pour un stoïcien, Carlos Lévy ?
Alors, l'ataraxie, c'est un but qu'il faut essayer d'atteindre. Elle ne s'est jamais incarnée, encore une fois, elle ne s'est jamais incarnée comme elle s'est incarnée chez les épicuriens, dans la personne d'Épicure. Donc, ce que les stoïciens proposent aux Romains est très difficile. C'est-à-dire de faire un effort permanent pour aboutir à la souveraineté de la raison qui va se traduire par le calme intérieur.
Pas de trouble. Donc ça, c'est commun avec les épicuriens.
Pas de trouble, ou en tout cas... Et là aussi, on a quelque chose qui est peut-être spécifiquement romain, cette idée du contrôle, très exactement comme Rome contrôle son empire, contrôle ses provinces.
Contrôle par la raison, c'est ça ? Le logos est une notion plus complexe que celle de raison pour les stoïciens.
Non, pas du tout.
C'est la raison.
C'est la raison. C'est la raison, mais... Le Romain surajoute à cela, je ne sais s'il faut dire la métaphore, en tout cas l'image de l'Empire, qui est omniprésente, surtout à l'époque de Sénèque. Donc Sénèque va être le penseur du progrès vert, tout en ayant en tête que le but... c'est d'atteindre la sérénité intérieure qui ne peut découler que de la puissance, du contrôle de la raison.
Est-ce que la raison des épicuriens, pardon, des stoïciens, est en écho à une sorte de rationalité du monde, du cosmos? Et si oui, puisque le cosmos n'est pas fait d'atomes pour les stoïciens, bien c'est sûr. Pas du tout comme les épicuriens, comment fonctionne le cosmos? Quelle est la rationalité du cosmos, du monde, pour un stoïcien?
La rationalité du monde, c'est de disparaître, ou en tout cas de s'effondrer et de renaître.
Ah ça, je ne comprends pas. Je trouve ça passionnant, mais je ne comprends pas très
absolument.
Bien.
Absolument. Le monde n'est pas éternel dans sa forme actuelle. Mmh. Il va aller vers l'ekpyrosis, c'est-à-dire la grande conflagration du monde tout entier, au terme de laquelle la raison, le logos universel, va se réduire à très peu de choses, mais un très peu de choses d'où va ressortir le monde suivant. Et ça, Sénèque a en tête, effectivement, l'idée de l'effondrement, du cataclysme, tout cela, il connaît. Ce qui est moins net chez lui, c'est l'idée que le monde va se refaire, et se refaire à l'identique, c'est-à-dire que dans le prochain cycle, nous aurons une émission de France Culture où nous dirons exactement les mêmes choses. Voilà. Et ça, Sénèque, c'est pas,
bon, pas,
c'est
pas très présent. Mais alors, je voudrais quand même qu'on creuse cette vision du cosmos, avec vous aussi, Christelle Veilla. Est-ce que la raison humaine... Nous avons ce privilège pour les stoïciens de comprendre particulièrement l'ordre du monde puisque nous avons la même chose dans notre cerveau, de la rationalité. Est-ce que cette rationalité humaine joue un rôle dans la reconstruction de nouveaux mondes après l'effondrement ?
Ah, vous posez une question extrêmement difficile.
Bon, c'est pas grave, vous voulez pas.
Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est une très très bonne question. Donc, comme l'a expliqué un peu Carlos Lévy, les stoïciens pensent le monde comme sous la forme avec un modèle végétal ou dynamique. Au principe du monde, il y a le Dieu, qui est une raison, mais qui est aussi un feu. Et ce feu ou cette raison va se déplier ou se déployer comme un germe pour produire le monde et tous les êtres du monde. Donc, étant un germe, il va pousser comme une plante et toujours de la même façon, en faisant toujours pousser les mêmes feuilles, donc toujours les mêmes événements se produiront. Et comme une plante, le monde va dépérir, il va mourir. Mais parce que le feu du Dieu est éternel, le monde va renaître toujours le même. De ce point de vue, donc la raison humaine, Sénèque dit que la raison humaine est une parcelle de l'étincelle divine. Mmh. Donc c'est une parcelle de ce Dieu qui se déploie en monde. Et c'est la raison pour laquelle notre rationalité est capable de comprendre l'ordre dans lequel le monde se déploie. Donc on pourrait dire la recette stoïcienne est toute simple. Pour être heureux, il suffirait de caler notre rationalité sur l'ordre physique du monde, donc comprendre exactement comment les choses vont se passer, pour pouvoir adhérer à ce qui va se passer, ou se conformer à ce qui est, pour pouvoir y participer, et donc trouver notre bonheur dans le fait de contribuer à cet ordre. Donc c'est là où intervient votre question difficile. Est-ce que ma raison consiste juste à accepter l'ordre tel qu'il se déploie nécessairement? Ou bien, est-ce que je peux ajouter des choses, infléchir l'ordre du monde?
Oui.
Donc la réponse stoïcienne, et notamment de Sénèque, consisterait à dire que l'objectif est de constater la beauté et l'ordre providentiel qui se déploie devant nous, et d'y participer le plus qu'il est possible en faisant nous-mêmes acte de cause providentielle et bonne. Donc, devenir d'une certaine manière comme le Dieu, une cause d'ordre, de providence, de bienveillance, d'harmonie et d'équilibre pour tous les êtres du monde.
Grâce à notre savoir, nous
exactement.
En avons pas mal parlé hier.
Exactement.
Il faut être savant pour devenir véritablement sage.
Tout
pour
à fait.
Stoïcien et comprendre la rationalité du monde. Alors maintenant, j'ai une autre question. Vous allez peut-être me dire qu'elle est aussi difficile, mais je la pose à Carlos Lévy. Sénèque s'est suicidé.
Oui.
Est-ce que c'est toujours un recours possible, autorisé, parfaitement légitime pour un stoïcien lorsque quoi ? Lorsque le monde ne correspond plus à la quête d'un individu. Comment penser le suicide du point de vue stoïcien ?
Alors, c'est une question extrêmement controversée sur laquelle il y a beaucoup de travaux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une première forme de retrait du monde dans le stoïcisme qui est que lorsque la cité est trop, on dirait aujourd'hui, pourrie, on se retire de la vie politique.
Ça, c'est pas le suicide, quand même.
Non, mais c'est un suicide civique.
Social, oui,
civique. Social, civique. Et ensuite, il y a le suicide, au sens que nous lui donnons, qui ne peut intervenir que lorsque l'état du monde n'incite plus à aucun espoir. Mais là même, il y a une figure qui est très intéressante, qui est celle d'Hercule, que l'on trouve évidemment dans les tragédies de Sénèque. Et le personnage d'Hercule, en particulier dans Hercule sur l'Oeta, dont l'authenticité est discutée, passons, Hercule se suicide par le feu. Mmh. Autrement dit, il y a une ekpyrosis individuelle dans le cas d'Hercule, qui est comme l'image de la conflagration, de l'incendie du monde. Avec toujours cette question un peu difficile, là encore, qui est celle de savoir ce qui vient après. Alors, là, on aborde une autre question très, très compliquée, qui est celle de la place du platonisme chez Sénèque. Y a-t-il une pensée de l'immortalité de l'âme chez Sénèque ? Parfois, cela paraît affleuré dans les lettres à Lucilius, mais ça n'a pas du tout une fonction dogmatique, c'est plutôt une sorte de tentation platonicienne, comme il y a chez lui une forme de tentation épicurienne.
Je suis en train de me dire que le feu, c'est si important pour les stoïciens que cette histoire d'incendie de Rome, c'est pas anodin que ce soit un incendie. Je veux dire, pour Sénèque, ça a dû être quelque chose. Vous êtes d'accord, Carlos ? Moi, je viens de prendre conscience que c'est pas juste une destruction, c'est par le feu.
Oui, puisque Rome est en quelque sorte le microcosme du monde et que l'incendie de Rome est une préfiguration de ce que pourrait être, de ce que serait l'incendie du monde, oui.
On connaît les causes aujourd'hui, en histoire, de cet incendie ? C'est vraiment Sénèque ? Vraiment Néron ?
Écoutez, là on encore, il y a...
plein de controverses.
On ne peut dire que ce soit Sénèque, non.
non, je voulais dire Néron, évidemment. Bon, laissons ce point, mais c'est vrai que le feu, c'est une vraie question. Alors, vous venez d'aborder, Carlos Lévy, le fait que, normalement, un stoïcien est dans le monde, mais il peut y avoir des moments où, désespéré, il s'en retire. En revanche, un épicurien, nous en avons parlé tout à l'heure avec Christelle Veillard, est d'emblée dans un jardin, retiré du monde. C'est un point de différence, hein, très important. Je voudrais qu'on le creuse un peu avec cet extrait de Sénèque des lettres à Lucilius, où il utilisera une formule devenue très célèbre. « Homme, j'estime que rien de ce qui touche à l'homme ne m'est étranger. » Écoutez.
Comment en user avec les hommes ? De quelle façon répondons-nous ? Quels préceptes donnons-nous ? D'épargner le sang d'êtres humains ? Que c'est peu de ne pas nuire à qui l'on doit faire du bien ? La belle gloire, vraiment, pour un homme de n'être pas féroce envers l'homme. Nous lui prescrirons de tendre la main au naufragé, de montrer la route à celui qui s'égare, de partager son pain avec celui qui a faim. Ce monde que tu vois, qui embrasse le domaine des hommes et des dieux, est un. Nous sommes les membres d'un grand corps. La nature nous a créés parents, nous tirons des mêmes principes et pour les mêmes fins. Elle a mis en nous un amour mutuel et nous a fait sociables. Elle a fondé l'équité et la justice. En vertu de ses lois constitutives, c'est une plus grande misère de faire le mal que de le subir. Fidèle à son commandement, soyons toujours prêts à tendre une main secourable. Qu'elle soit dans nos cœurs et sur nos lèvres, la maxime du poète. Homme, j'estime que rien de ce qui touche à l'homme ne m'est étranger. Montrons-nous solidaires, étroitement les uns des autres, étant faits pour la communauté. La société humaine est pareille à une voûte dont la chute serait inévitable sans une mutuelle résistance des matériaux, moyennant quoi l'édifice tient.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de Sénèque aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série sur le stoïcisme. Sénèque écrit que rien de ce qui touche à l'homme ne lui est étranger, ne nous est étranger. Cela signifie-t-il, Christelle Veillard, que forcément, le stoïcien, autant que possible, est dans la vie civique?
Alors oui, il est dans la vie civique, il est concerné par l'humanité de manière même encore plus large que l'espace politique restreint dans lequel il habite, concrètement parlant. Et effectivement, le stoïcisme pose que le monde est une grande cité qui est sous la même loi, celle de la raison, et sous le regard des dieux, sous la providence des dieux. Et de ce point de vue, ayant tous la même rationalité, la même capacité à comprendre l'ordre du monde, à reconnaître la loi de la raison droite et à énoncer des valeurs morales communes universellement, nous sommes en charge aussi et nous sommes responsables du maintien de ces valeurs universelles, cosmiques, sur la scène du monde. Donc pas seulement dans notre espace restreint de Rome, par exemple, ou d'Athènes, mais aussi sur la scène mondiale. Donc le cosmopolitisme stoïcien est évidemment une différence très nette avec le jardin épicurien qui, lui, pense plutôt une communauté restreinte aux amis que nous voyons et avec qui nous vivons.
Alors merci pour le mot ami, c'est le point que je souhaitais aborder dans la suite de cette réflexion sur retrait du monde ou insertion dans la vie civique. Carlos Lévy, l'amitié est très importante aussi bien pour les épicuriens que pour les stoïciens. En quoi est-elle fondamentalement différente chez les uns et chez les autres?
Alors les racines sont tout à fait différentes dans l'épicurisme. L'amitié, au moins à l'origine, est fondée sur l'intérêt commun des deux amis, alors que dans le stoïcisme, c'est un mouvement naturel.
Rationnel.
Rationnel, si on veut, mais d'abord naturel, c'est une pulsion. Et il est dit que l'amitié est d'abord amour, c'est-à-dire élan vers l'autre, qui ensuite devient quelque chose de plus immédiatement rationnel.
Est-il suspect pour un stoïcien de ne pas avoir d'amis?
Sans doute, puisque, et cela a été condamné aussi bien par Cicéron que par Sénèque, ne pas avoir d'amis, c'est être sauvage, c'est manquer à cette sociabilité naturelle qui caractérise le monde des humains.
Et l'amitié pour les épicuriens qui se fait en retrait du monde et que vous venez de décrire comme fondée sur des intérêts communs, est-elle cette amitié-là méprisable pour les stoïciens? Ça, c'est pas de l'amitié pour eux.
Elle est erronée dans son principe. Elle est erronée dans son principe. Et encore que le retrait, le jardin, tout cela est vrai, mais en même temps, il y a eu des cercles épicurien un peu partout. Et donc, l'épicurisme n'est pas resté enfermé dans son jardin. Il a conservé la structure du jardin, mais il l'a diffusée là où il pouvait la diffuser. Et en ce sens, on peut parler aussi d'une forme d'universalisme épicurien très différent, évidemment, de celui des stoïciens, mais on mentionne très souvent l'inscription sur un mur de Diogène de Noanda, qui se trouvait quand même en Asie mineure, très loin de Rome, et qui avait tenu à exprimer les principes stoïciens sur un mur. Donc, une volonté de diffusion et de permanence de la structure de la pensée épicurienne.
Rien de ce qui touche à l'homme ne m'est étranger, c'est ce que dit Sénèque, d'un point de vue stoïcien. D'une certaine façon, Christelle Veillard, un épicurien, connaît bien l'épicurisme, un épicurien pourrait le dire aussi, non ? Mais cela aurait un tout autre sens.
Alors, cela aurait un autre sens, puisque, donc, d'une certaine manière, les épicuriens fondent aussi leur amitié sur les sensations communes, sur les mémoires, les souvenirs qu'ils ont de la vie en commun, notamment des réjouissances communes, la lecture de textes, assister aux leçons d'Épicure, etc. Donc, il y a une espèce de communauté, effectivement, de sympathie commune avec des hommes enracinés dans la sensibilité qui, de fait, est une sensibilité commune à tous les hommes. Donc, on pourrait le dire en ce sens, éventuellement.
Mais la vie publique, en tout cas, et la vie amicale comme insérée dans la vie publique, ça, c'est vraiment stoïcien. C'est vraiment ce que Sénèque affirme, pour le coup, dans une rupture claire avec l'épicurisme.
En tout cas, je dirais aussi que, donc, comme Carlos Lévy a dit, l'amitié a un principe différent et elle se manifeste de manière différente chez les stoïciens et chez les épicuriens. Et donc, les stoïciens proclame d'une certaine manière une sorte de bizarrerie qui consiste à dire que les amis sont interchangeables et que si je perds un ami, je peux m'en faire un autre. Tout simplement parce que je suis ami avec quelqu'un qui est parfaitement rationnel et que cette amitié, elle est fondée en raison avant d'être fondée sur l'utilité commune, par exemple. Donc je peux retrouver un ami qui est caractérisé par l'abstraction de son raisonnement droit.
Donc ça, c'est pour les stoïciens.
Pour les stoïciens.
Et Sénèque, en l'occurrence.
Voilà. Oui. Tandis que pour les épicuriens, l'amitié est tout à fait différente. Elle est une vie en commun, quotidienne, incarnée, pourrait-on dire, et enracinée dans la sensibilité. Donc, de ce point de vue, si mon ami meurt, je pleure et je suis en droit de pleurer. Et je vais essayer de contrer cette tristesse par la remémoration des souvenirs communs. Mais en tout cas, un épicurien ne dirait pas qu'un ami est remplaçable aussi facilement et qu'il est aussi facile de le trouver, peut-être. Je pense que ça, c'est une différence.
Oui. Quelle vie publique exactement ? Quelle vie publique pour Sénèque, le stoïcien Sénèque ? Je vous propose d'écouter maintenant un extrait de La tranquillité de l'âme. Un ouvrage où il va poser le problème de savoir comment se comporter et quels vices éviter. Et vous allez le voir, il rend un hommage au philosophe grec Démocrite qui nous disait de nous méfier des potins, des ragots et de ce qu'il y a de plus bas dans l'être humain, souvent dans la vie publique.
Le plus funeste des vices est celui de laisser partout traîner son oreille pour connaître une foule de potins qu'on ne saurait ni raconter ni écouter sans courir de risque. C'est à cette idée, je pense, que se range Démocrite lorsqu'il commence en ces termes. Qui voudra vivre dans la tranquillité ne devra pas se donner beaucoup d'occupations publiques ou privées. Il fait évidemment référence aux occupations superflues, car lorsqu'elles sont nécessaires, on doit s'en donner non seulement beaucoup, mais un nombre infini. Quand en revanche, aucune des obligations habituelles à un citoyen ne nous appelle, il nous faut restreindre notre activité. Accumuler les occupations, en effet, c'est donner sans cesse prise à la fortune sur nous. Le plus sûr est de la tenter rarement, mais d'y penser toujours sans jamais lui accorder notre confiance. Je ferai cette traversée s'il ne m'arrive rien d'ici là. Je serai élu prêteur si rien ne m'en empêche. Cette affaire sera un succès si rien ne vient en travers de mon chemin. Voilà pourquoi nous affirmons que rien ne peut arriver au sage contre son attente. Nous ne le soustrayons pas aux vicissitudes qui touchent les hommes, mais aux erreurs dont ils sont victimes. Tout ce qui lui arrive répond non pas à ses désirs, mais à ses prévisions. Et la première de ses prévisions, c'est qu'un accident peut s'opposer à ses desseins. Or, de toute évidence, on souffre moins vivement de la frustration d'un désir quand on ne s'est pas promis une réussite assurée.
Toute l'équipe d'Avec Philosophie a lu du Sénèque, ou quasiment, tout à l'heure. C'était Anna Feulpin, et là, c'était Axel Dubois, qui lisait donc ce passage de la tranquillité de l'âme. Il y a quand même beaucoup de vertus à cultiver, selon Sénèque, le stoïcien Carlos Lévy, pour éviter les travers de la vie publique. Franchement, on peut comprendre qu'à un moment, on se retire inévitablement, suicide social, voire pire. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, personnellement, je suis tout à fait d'accord, mais bon.
Vous seriez retiré, vous aussi, depuis longtemps, à la place de Sénèque?
Je ne suis pas sûr que je me serais suicidé. Enfin, on ne sait jamais. Bon, alors, pour compléter ce qu'a dit Christelle et ce que vous avez dit, je voudrais revenir sur deux points.
Volontiers.
L'un des paradoxes de l'épicurisme, c'est que, selon beaucoup de témoignages fiables, César avait des sympathies épicuriennes.
Ah bon ?
Eh ben oui. Ben oui. Donc,
César.
Et ça, Cicéron le sous-entend à plusieurs reprises, c'est peut-être l'une des sources de leur désaccord. Donc, Sénèque vit dans un monde qui a été pensé, non pas par un stoïcien, mais par un épicurien. Donc, quand on parle de... Alors, il n'était certainement pas épicurien dans le sens orthodoxe du terme, mais il avait des sympathies pour l'épicurisme, probablement à cause du concept d'intérêt. Mmh. Et d'autre part, il avait, César avait autour de lui des gens qui étaient connus comme sympathisants épicuriens, c'est en particulier Pison, hein, le fameux Pison de la Villa des Pisons. Et deuxième point, c'est cette formule que vous avez répétée en latin, « Homo sum et nihil humani ame alienum puto », je suis homme et je pense que rien d'humain ne m'est étranger, certes, mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que cette formule est prononcée dans la pièce de théâtre par Leoton Timoroumenos, par un personnage qui est tout sauf exemplaire.
Ah, c'est très intéressant.
C'est un curieux. C'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, mais de manière presque un peu malsaine.
Mais là, tout à l'heure, c'était dans une version positive que nous
avons
lu.
Alors, c'est précisément cela. Cicéron raconte que dès que cette phrase a été prononcée devant un public romain, le public a éclaté en applaudissements. Il n'a pas vu ce qu'il y avait comme sous-entendu. Il a vu là quelque chose à quoi il pouvait adhérer.
Donc c'est quand même très profondément ambivalent l'intérêt, pour le coup, pour la vie publique. Il peut y avoir cette curiosité malsaine, ces ragots,
absolument,
ces potins, et puis dans le « rien ne m'est étranger », et puis il peut y avoir le meilleur dans
et
le
« rien ne m'est étranger ». Et il peut y avoir l'intérêt politique, qui est celui de César.
Ouais. Alors, peut-être, dernier point, mais je ne veux surtout pas, Christelle Veillère, vous empêcher de commenter là ce qui vient d'être dit, qui est très important, mais... Sénèque ayant été très riche, c'est vrai que j'ai posé ce problème d'entrée de jeu. Il existe dans le stoïcisme parce que la sobriété est une chose très valorisée par les stoïciens. Comment a-t-il fait et même pour les épicuriens, la richesse, bon, enfin, c'est quand même une pensée de la modération aussi, l'épicurisme. Comment a-t-il fait avec ça et avec ça dans la vie publique romaine, avec cette richesse ?
Alors, je crois que d'un point de vue doctrinal, il y a une réflexion très intéressante à l'intérieur de l'école stoïcienne sur l'usage des richesses que Sénèque connaît, puisqu'il a lu Posidonius, qui s'est occupé de cette question notamment.
Donc un stoïcien de l'époque, entre les Grecs anciens qu'on a vus hier et la période romaine.
Exactement. Et Posidonius, Cicéron est allé écouter les leçons de Posidonius, par exemple, à un certain moment de son existence. Donc ce débat sur les richesses existe. Il consiste à interroger la manière dont on atteint la vertu ou le bien ou la modération, et quel est l'usage que l'on peut faire de ces indifférents, normalement, que sont les richesses. Et la réponse est la suivante. Elles peuvent servir de cause accessoire pour atteindre notre objectif. Et d'une certaine manière, ce sont des causes qui sont légitimes si elles sont des paramètres qui sont inhérents à l'action. Donc souvent, j'utilise une phrase de Sénèque lui-même qui dit « Le sage sait qu'il est des ponts que nous ne pouvons traverser sans payer de péage. » Donc il sait que pour réaliser un certain type d'action, il y a aussi des actions qui sont accrochées, donc notamment l'usage de l'argent.
Oui.
Et posséder des richesses, tout en les considérant bien comme des choses indifférentes, mais simplement comme des moyens transitoires pour atteindre autre chose, c'est se donner les moyens de faire quelque chose sur la scène du monde. Donc comme vous l'avez dit au tout début de l'émission, éventuellement reconstruire une Rome nouvelle, mieux construite, plus droite, parce qu'il possède des richesses. Ce schème est aussi un schème romain d'une certaine manière, puisque dans un texte de Cicéron, on trouve aussi l'idée que la richesse des individus n'est pas d'abord une richesse individuelle, c'est ce qui permet de constituer la richesse de la patrie. Donc la richesse de l'individu doit servir au collectif. Donc Sénèque se débarrasse du problème assez facilement, je trouve, d'un point de vue doctrinal aussi. Donc il n'a pas beaucoup de difficultés ou de remords, finalement, à utiliser des moyens pour faire le bien autour de lui.
Et c'est vrai qu'il a tout donné pour reconstruire Rome ou à Néron.
Il a fait un don extrêmement important, effectivement.
Après l'incendie.
À Néron, oui, absolument. Mais bon, tout est ambigu dans cette histoire.
Oui.
Tout est ambigu. Et comme Christelle vient de le dire, il n'y a pas dans le stoïcisme ni de condamnation absolue des richesses, ni
de valorisation.
Et là, nous trouvons ce problème des personae. En tant que stoïcien, ou bon, sympathisant stoïcien en tout cas, Sénèque se dit qu'il y a un bon usage des richesses et que donc on peut accumuler des richesses, mais la persona du romain politique, magistrat, etc., c'est d'accumuler le plus possible pour lui-même. Et on a les deux qui coexistent d'une manière qui nous apparaît scandaleuse, mais qui, d'une certaine manière, pouvait paraître normal.
Oui, la boucle est bouclée, puisque dès le début de cette émission, vous nous avez dit à quel point les Romains étaient tolérants sur la pluralité des personnages ou des personae que nous sommes.
Avaient-ils tort ?
Ah, moi, je pense pas qu'ils avaient tort, non ?
Moi non plus.
Mais si je peux me permettre, c'est très très intéressant, et souvent on oppose stoïcisme à des pensées très modernes, comme la psychanalyse, où nous savons qu'il y a de l'altérité en nous, mais en fait c'est extrêmement compatible, et ça c'est vous qui me l'avez appris.
Merci, merci. Mais bon, Foucault, dans toutes ses recherches pour montrer comment on construisait le moi, ça supposait que le moi n'était pas construit, et que donc il fallait venir à bout de ces multiples moi, ou soi, comme on voudra, comporte en soi.
Merci beaucoup tous les deux, c'était passionnant. Christelle Veillard, Carlos Lévy, tous vos travaux sont précisés sur notre site. Voici la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, elle a pour thème le corruptible et l'incorruptible, c'est le pourquoi du comment.
Pourquoi la vertu ne suffit-elle pas ? Le terme de vertu s'est beaucoup affaibli dans les siècles modernes et notamment dans la vie contemporaine, mais il garde néanmoins un prestige, l'idée qu'il y a là quelque chose de fondamental, un pilier non seulement de la vie humaine individuelle, mais peut-être et surtout de la vie collective, de la vie en société, de la vie politique. On a besoin de la vertu individuelle, de la vertu notamment des gouvernants et des citoyens en général. Ce terme garde là quelque chose de fondamental et il faut se demander pourquoi, mais il faut se demander aussi si cela peut suffire, si l'on peut s'appuyer seulement sur la vertu des individus pour maintenir nos sociétés. Qu'est-ce qu'on entend en effet par vertu ? On entend par vertu non seulement le fait d'accomplir un acte juste, non seulement le fait d'être juste ponctuellement, mais comme le disait Aristote de manière déjà très claire dans son Éthique, eh bien la vertu c'est la disposition ferme, inébranlable, continue, qui nous fait être juste de manière absolument stable et sans fléchir. La vertu c'est la disposition continuelle à accueillir la justice. Par exemple, un homme est juste quand il est juste tout le temps. Ainsi, la vertu est un pilier de la vie humaine, c'est quelque chose à quoi l'on doit faire confiance absolument. Et c'est, par exemple, dans le domaine politique, ce qui reste de cette vertu des grands sages politiques aussi, comme Caton dans Les Vies des Hommes Illustres, qui se battait pour la cité, qui défendait la République de Rome. Eh bien, cette vertu, c'est notamment celle de l'incorruptibilité. Oui, la vertu, l'incorruptible, par exemple, le policier de Chicago contre Al Capone, il était incorruptible parce que les mafieux voulaient tout le temps le corrompre, voulaient faire passer son intérêt particulier avant l'intérêt général, accepte de l'argent au lieu de nous mettre en prison. La corruption a des zones rouges et des zones grises, comme le dit une série récente sur la mafia italienne. La mafia tue seulement l'été, cette question des zones grises. Oui, bien sûr, tu es policier, bien sûr, tu es magistrat, bien sûr, tu es professeur, mais si je te donne de l'argent, tu devrais faire passer ton intérêt particulier avant l'intérêt général. Eh bien non, l'homme vertueux, c'est celui qui dit non. Tout le temps. Il est incorruptible comme Elliot Ness. Il ne se laisse jamais tenter par la fortune ni intimidé par les menaces. La vertu est donc le pilier non seulement de la vie individuelle, d'être juste de manière fiable, continuelle, morale, mais aussi de l'ordre politique. Et c'est pourquoi les plus grands philosophes de la démocratie ont expliqué que la démocratie reposait sur cette vertu en général. Montesquieu disait que l'aristocratie repose sur l'honneur des nobles, l'honneur des castes, mais que la démocratie repose sur la vertu de tous, le fait que les citoyens doivent être justes. Et de fait, pour lutter contre la corruption, qui n'est jamais seulement une tentative extérieure, mais une fragilité intérieure, il nous faut des gouvernants vertueux. Nous devons avoir des gouvernants vertueux qui respectent des obligations morales de manière fiable et continuelle, et nous devons l'être aussi dans nos vies. La cité juste n'est pas possible sans des hommes justes. Et pourtant, la vertu peut-elle suffire ? L'incorruptibilité d'Eliot Ness suffit-elle ? Eh bien non, pour éviter les conflits d'intérêts privés, les conflits entre l'intérêt privé et l'intérêt général, il faut évidemment des règles et des lois. Les lois doivent compléter les vertus, mais elles ne sont pas possibles sans la vertu, sans la construction par l'éducation morale et la vie quotidienne, des vertus qui font tenir la société humaine.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Colin Gruel avec à la technique Dalia. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Axel Dubois, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.